Radio Kapi.
Le journal de Linda Bosuma. Drame de Calais au sud Kivu. La situation demeure toujours confuse sur terrain selon des témoins. Les rescapés hésitent à quitter les lieux sinistrés pour rejoindre le site désigné par les autorités. Entre-temps, les volontaires viennent en aide, mais la distribution pose problème. Le comité provincial de gestion de la catastrophe s'est dit dépassé. À Bénivile, présentation hier de 45 présumés bandits et autres criminels arrêtés par les forces de sécurité. Ils ont été appréhendés lors des patrouilles et bouclages dans les quartiers où les cas d'insécurité ont pris de l'ampleur ces derniers temps. Ils seront déférés devant leur juge naturel. Et puis, la province du Maniema vient de bénéficier du projet de prévention et réponse à l'exploitation et abus sexuels. Il sera mis en œuvre par l'organisation transculturelle psychologique dans deux zones de santé du Maniema notamment. Pour en parler, nous recevons le superviseur terrain Étienne Kalimbiro. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du sud Kivu. À Calais, la situation demeure confuse et intenable après le drame du 4 mai dernier. Les survivants hésitent à quitter les lieux sinistres pour rejoindre le site désigné par les autorités. Les volontaires viennent en assistance, mais la distribution pose problème. Un bateau chargé de 8 tonnes de vivres et non-vivres a quitté Bukavu pour Calais ce matin dans le cadre de l'apostolat du groupe Yakesho Yadjoua Mungu. Jean Kassami nous en dit plus.
Ces bateaux chargés de vivres et non-vivres s'est destiné à Nyamukubi où les bienfaiteurs ont procédé eux-mêmes à la distribution, un geste que les sinistrés de Nyamukubi ont apprécié car selon eux, les gros des aides sont tantôt focalisés à Bushushu, soit détournés par les comités. Le comité provincial de gestion de la catastrophe avoue son débordement. L'administrateur de Kalehe, Thomas Bakenga, fait partie du comité.
Nous, on avait dit, au niveau de la coordination, nous avons demandé à un partenaire professionnel qui est Audvision, qui était décidé par Wotia, et Audvision pouvait faire ça professionnellement. Mais on a constaté qu'il y a une pression, là, je ne sais pas de quelle structure de gens, qui voudraient à ce qu'on donne tout, et maintenant ça s'est fait d'une manière non ordonnée. Maintenant là, les conséquences, si vous comprenez, sur le site, il y en a qui se querellent, qui se battent, de tout et tout.
Une autre difficulté dénoncée par les comités, c'est l'afflux des habitants des milieux non sinistrés sur les sites de distribution. Ainsi, l'administrateur réitère la demande aux sinistrés de se regrouper sur les nouveaux sites pour faciliter l'opération. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Province du Kwilu, pendant ce temps, la ville de Kenge, son chef-lieu et ses environs sont à ce jour assiégés par des milliers de nouveaux déplacés. Ces personnes ont fui les violences aux villages Bachongo, Mongata et autres le vendredi dernier et hier, violences perpétrées par des combattants de la milice Mobondo. Le cadre de concertation provinciale de la société civile du Kwango qui alerte indique que ces déplacés vivent dans des conditions inhumaines. Symphorien Kwengo, premier vice-président de cette structure citoyenne, demande au gouvernement congolais et au partenaires de venir en aide à ces personnes en détresse. Il est joint par Irène Boma.
La situation est toujours tendue entre le pont Kwango et Mbankana. Tous ces rayons-là, vous prenez Mongata, Bachongo, ces rayons-là est pratiquement inhabité pour le moment. Il n'y a plus personne, c'est le désert. Les gens ont fui, les villages ont été abandonnés. Kenge, Mission Lonzo, pont Kwango, c'est plein de déplacés. Vous savez, Madame Irène, la plus grande difficulté que nous avons, Bachongo, c'était le lieu de refuge de tous les déplacés qui venaient de Mongata, qui s'élève pour Mounkin. Maintenant, ces déplacés-là, qui étaient là très nombreux, deviennent encore pour la énième fois déplacés. Donc, ils sont en fuite, en débandade, dont la situation humanitaire est très préoccupante. On a maintenant là un nombre important de déplacés qui requiert une intervention sur le plan humanitaire. Donc, ça ne doit pas attendre. Et depuis que nous avions parlé de ces déplacés il y a presque 2 mois, ils n'ont bénéficié d'aucune assistance. Et maintenant, ils sont encore en brousse. Je crois que c'est le moment que ces gens bénéficient d'une assistance humanitaire auprès du gouvernement et même des partenaires techniques et financiers.
Je vous l'ai dit dans les titres, dans la ville de Beni, 45 présumés bandits et autres criminels arrêtés par les forces de sécurité ont été présentés à l'autorité urbaine hier. Ils ont été appréhendés lors des différentes patrouilles et bouclages de la police dans les quartiers des quatre communes de la ville de Beni. En effet, actuellement, il ne se passe pas un seul jour sans qu'un cas d'insécurité ne soit signalé dans ces quartiers. Le chargé de communication de la police a indiqué que tous seront déférés devant leur juge naturel. Reportage de Marc Marouf.
C'est un total de 45 présumés criminels, bandits armés et des voleurs de grands chemins qui sont tombés dans les filets des forces de sécurité de la ville lors des différentes opérations de patrouille et de bouclage des quartiers de la ville de Beni. Les uns arrêtés en flagrance et les autres, dont les détenteurs illégaux d'armes qui insécurisent la ville, ont été cités par ceux qui sont arrêtés, dont les uns sont même auteurs des cas de meurtre et différents cambriolages des domiciles de la population à ville de Beni. L'autorité igoubène à qui ces présumés bandits ont été présentés a indiqué que ce n'est que le début, car les forces de sécurité sont activées afin de traquer tous les bandits qui insécurisent la ville. Pour sa part, le chargé de communication de la police qui les a présentés au maire de la ville a indiqué que tous seront transférés devant leur juge naturel afin qu'ils répondent de leurs actes. Nassan Mourara.
La suite de tous ces arrêtés, pour la police et à la justice. Et voilà, ils doivent être déférés devant leur juge naturel. Que la population passe toujours pour vérification et elle doit d'abord passer pour les dépôts de plaintes contre Ngoni. Nous continuerons toujours avec ces opérations pour que la ville de Beni se sente dans la sécurité.
Signalant que la plupart de ces présumés criminels ont été arrêtés dans les quartiers de la commune de Moulekera, les autres dans les quartiers Matongé et Amalepe, des entités urbaines où les cas d'insécurité ont pris de l'ampleur ces derniers temps. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Et puis, c'est depuis de nombreuses années que la MONUSCO a fermé la plupart de ses installations dans la province de l'Ituri. C'est le cas de la base d'Aveba dans la chefferie de Walindu-Bindi, territoire d'Irumu. Elle n'est plus opérationnelle depuis 2021. Mais avant de quitter la zone, la MONUSCO a formé certains jeunes à divers métiers, ce qui leur permet à ce jour de gagner leur vie. Deux ans après, Radio Kapi a retrouvé l'un des bénéficiaires de ces formations qui exerce aujourd'hui le métier de réparateur des motos. Jean-Claude Loki est allé à sa rencontre. Voici son reportage.
La trentaine révolue, peu bavarde, Jean-Marie Marois tient un atelier de fortune où il répare des motos ainsi que des groupes électrogènes, un métier qu'il a appris grâce à une formation financée par la MONUSCO à travers les casques bleus du contingent bangladais. Deux ans après, il a construit sa maison d'habitation et il scolarise son enfant, cela dit-il, grâce au revenu de son travail. À ce jour, Jean-Marie Marois encadre sept autres enfants à qui il apprend à réparer les motos. Ici, j'encadre sept jeunes, mais je ne leur paie rien. Ce que je veux, d'abord, qu'ils puissent apprendre la matière, et puis après, ils pourront travailler seuls. Une grande partie de ce que je gagne ici, c'est pour aider mon enfant. À ses côtés, Douandro Aveluma, un ex-milicien démobilisé, qui vite s'était reconverti en enseignant après avoir obtenu son diplôme en mécanique générale. Celui qui dispensait les enseignements à Jean-Marie et à ses collègues, après avoir été sollicité par la MONUSCO pour encadrer des jeunes désœuvreux.
Ces petits-là, je les avais recrutés parce qu'ils étaient des vrais bandits. Ils étaient venus de différents côtés, des Bavi, même les ateliers que vous voyez à Getty, ce sont les enfants que j'ai formés, même à Bavi, même à Bukringi, ce sont les premières formations.
Il s'est dit aussi fier de voir les 14 autres élèves formés tenir leurs propres ateliers de mécanique dont les recettes les aident à subvenir à leurs besoins. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Kapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé hier en début de soirée à Oyo, en République du Congo. Le chef de l'État est en visite officielle de travail de 48 heures à Oyo, ville située à 400 km au nord de Brazzaville. Le président Sassou Nguesso a lui-même fait le déplacement de l'aéroport d'Olombo pour accueillir son hôte de marque, Félix-Antoine Tshisekedi, au pied de l'avion. D'autres précisions avec Alain Rong.
Après les honneurs militaires et les salutations des personnalités politiques de Kinshasa et de Brazzaville, les deux chefs d'État ont eu quelques minutes d'entretien au salon présidentiel avant de partager le même véhicule pour la résidence temporaire du président Félix Tshisekedi. Son séjour à Oyo s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre les deux pays frères, la République démocratique du Congo et la République du Congo. Un tête-à-tête est prévu ce dimanche 14 mai entre les deux présidents. Dans l'entourage des deux chefs d'État, personne n'a dévoilé les termes de référence de leur entrevue, indique la presse présidentielle de RDC. Pour rappel, la dernière visite du président Félix Tshisekedi dans cette ville remonte à février 2023. Ce fut dans le cadre d'un entretien bilatéral entre Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au sujet de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Retour au Nord Kivu. Un mois après la clôture des opérations d'enrôlement des électeurs, aucun programme n'est annoncé pour les territoires de Masisi et de Rutshuru. Cette situation a été une fois de plus déplorée par les députés provinciaux en congé. Ces derniers l'ont dit lors d'une réunion politique hier à Goma. Ils estiment que cette situation aura des répercussions sur la population des deux entités où l'enrôlement n'avait pas été organisé pour des raisons sécuritaires. Écoutez en ce sujet, maître Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Propos recueillis par Bernard Nyangi.
Nous sommes profondément préoccupés par cette situation. Si nous devons aller aux élections en décembre, nous devons nous rassurer qu'avant décembre, la population de Rutshuru, de Masisi et une partie de la population de Nyiragongo ont eu leur carte. Ces populations qui n'ont pas eu accès aux cartes d'électeurs sont aujourd'hui exposées à des tracasseries à l'occasion de contrôles de sécurité. Il est question ici de faire le plaidoyer pour qu'au niveau du service de sécurité, qu'on autorise la validité de ces anciennes cartes jusqu'à ce que ces populations accèdent à de nouvelles cartes. Il est également des détenteurs de cartes aujourd'hui qui s'effacent. Si en un mois déjà, il peut y avoir des cartes qui s'effacent, nous imaginons que jusqu'en décembre, il y aura plusieurs cartes qui seront sans numéro, sans nom, sans visage. Et cela pourrait également exposer plusieurs électeurs à ne pas exercer leurs droits politiques. Et vous allez même constater que l'occasion de contrôle, par exemple, d'immigration pour ceux qui veulent voyager, pour ceux qui n'ont pas encore les nouvelles cartes, ça pose un sérieux problème.
En congé technique depuis l'institution de l'état de siège au Nord Kivu notamment, ces députés provinciaux plaident aussi pour l'allègement des dispositions qui restreignent leur liberté de mouvement. Pendant ce temps, les députés provinciaux de l'Omami ont enfin adopté hier le calendrier des matières pour la session ordinaire de mars en cours. Cela, un mois et demi après l'ouverture de la session ordinaire, suivie de trois plénières ratées, faute de quorum. Parmi les matières inscrites, on note l'examen et adoption du projet d'édit portant reddition des comptes exercice 2022, l'examen et adoption de la proposition d'édit portant respect des normes et règlements techniques de la protection génétique des semences de qualité dans la province de l'Omami et adoption du budget de l'Assemblée provinciale de l'Omami exercice 2024. Signalons que 15 députés provinciaux sur les 26 que compte l'Assemblée provinciale de l'Omami ont pris part à cette plénière, contrairement aux plénières précédentes auxquelles 7 députés seulement étaient présents. Sud Kivu, cette innovation dans la commune de Kadutu à Bukavu. Il s'agit de la mise en place d'un logiciel pour la collecte des taxes. Cette informatisation du système de collecte des taxes est le résultat d'une formation de 3 jours dispensée aux agents collecteurs et des finances et budgets qui travaillent à la commune de Kadutu. Un modèle implémenté par la commission diocésaine justice et paix de Bukavu en guise de réponse au désidérata du nouveau bourgmestre qui tient à familiariser ses services financiers à une gestion assistée par l'informatique. Jean-Pierre Mizinzi, bourgmestre de la commune de Kadutu, revient ici sur les avantages que son entité compte tirer de ce nouvel outil informatique. Il est au micro de Jean Kassami.
Créer d'abord une base de données des assujettis, suivre de manière directe la collecte, mais aussi permettre une gestion et une planification des dépenses. Quand on a une base de données, donc on connaît les assujettis, on peut planifier un développement ou une dépense quelconque. Dans le cadre du développement comme dans le cadre social et autres, mais aussi dans le cadre de la bonne gouvernance. On espère en tout cas et on y compte, ceci va nous permettre de bien tracer les recettes et nous donner les moyens du développement de nos quartiers au niveau de la commune de Kadutu. Parce que payer les agents ne suffit pas. Il y a les défis de développement, il y a les défis d'assainissement, il y a les défis sociaux, il y a des cas pour lesquels rapidement il faut intervenir et des fois les moyens manquent. En tout cas, on compte sur cet outil pour que, au fur et à mesure, on contrôle tout correctement et qu'on gagne plus de moyens pour ce genre d'intervention. On est là pour gérer et pour bien gérer et pour satisfaire les desiderata tant que faire c'est eux de la population de Kadutu.
Et pour mener à bien sa mission, le bourgmestre de Kadutu dit déplorer le nombre insuffisant des machines à sa disposition. La commune ne dispose que de 10 ordinateurs alors que le besoin est de 50 ordinateurs. Direction la province de la Tchopo. Le pape François vient de nommer un nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani. Il s'agit du père Léonard Njadinjate, supérieur provincial des missionnaires comboniens en République démocratique du Congo. Monseigneur l'archevêque métropolitain de Kisangani, Marcel Utembitapa, l'a annoncé hier aux agents pastoraux. Mais qui est le nouvel évêque auxiliaire de Kisangani et quel sera son rôle au sein de cette entité ecclésiastique? Jacques Mukonkole.
Monseigneur Léonard Njadinjate est né le 2 janvier 1976 à Yanongé, localité située à 55 km de Kisangani en aval du fleuve Congo. Il est entré dans la congrégation des missionnaires comboniens en 1995. Il a étudié la philosophie au philosopha Edi Stein de Kisangani, puis la théologie à l'Institut et Jeune de Mazenod à Kinshasa, où il décroche une licence en théologie spirituelle. Il poursuit ses études en théologie à l'Université grégorienne à Rome de 2013 à 2015, et se spécialise en formation vocationnelle. Le futur évêque auxiliaire de Kisangani a été ordonné prêtre le 13 août 2006 à Kisangani. Il a exercé plusieurs fonctions, notamment comme curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Bangui en RCA. De 2015 à 2019, il a été maître du noviciat à Cotonou au Bénin et membre du conseil de la province combonienne du Togo, Ghana et Bénin. De 2020 jusqu'à sa nomination, il est le supérieur provincial des comboniens en République démocratique du Congo. Bien qu'évêque auxiliaire, il est évêque à part entière, a souligné l'archevêque de Kisangani. Monseigneur Marcel Utembi précise par ailleurs qu'un auxiliaire aide un évêque responsable d'un diocèse important et reçoit l'ordination épiscopale. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Nous sommes au Kenya. Plus de 20 corps ont été exhumés hier, portant à plus de 200 le nombre des dépouilles découvertes depuis mi-avril dans la forêt de Chakaola, située dans l'est du pays, où se réunissait une secte dont le chef aurait dit de jeûner pour rencontrer Jésus. La police estime que la plupart des corps découverts près de la ville côtière de Malindi sont ceux d'adeptes de la secte de Paul Ntenge Mackenzie, un ancien chauffeur taxi autoproclamé pasteur de l'Église internationale de Bonne Nouvelle. La préfète de la région a précisé que 26 personnes avaient été arrêtées à ce jour, dont Paul Ntenge Mackenzie et un gang d'hommes de main chargés de vérifier qu'aucun adepte ne rompait le jeûne ou ne s'échappait de la forêt. Ce dimanche 14 mai, les Turcs se rendent aux urnes afin de choisir leur nouveau président et renouveler le Parlement, un scrutin qui se déroule un siècle après la fondation de la République de Turquie. L'opposition espère ainsi écarter Recep Erdogan à la tête de la Turquie depuis 20 ans.
L'invité.
La province du Maniema vient de bénéficier du projet de prévention et réponse à l'exploitation et abus sexuels ainsi que le harcèlement sexuel. Ce projet de près d'une année sera mis en œuvre par Transculturelle Psychosociale Organisation dans 18 zones de santé du Sud Kivu et 2 zones de santé du Maniema dans Kunda et Kibombo. Pour en parler, nous recevons le superviseur terrain, Étienne Kalimbiro. Il s'entretient avec Florence Kiza.
Monsieur Étienne Kalimbiro, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Dites-nous, vous représentez quelle organisation et vous êtes venu faire quoi ici chez nous au Maniema?
Je suis le superviseur terrain au sein de l'organisation TPO. TPO, ça veut dire Transcultural Psychosocial Organization. Et nous sommes au Maniema dans le cadre de la mise en œuvre du projet de prévention et réponse aux abus, exploitation sexuelle et harcèlement sexuel dans le cadre du projet financé par la Banque mondiale à travers 4 programmes, notamment PMNS, Programme multisectoriel de la santé et nutrition, PDSS, Programme de développement de la santé et du système de santé en RDC et le programme COVID-19.
Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous êtes parti de quel constant pour venir exécuter ces projets ici? Qu'est-ce qui vous a plus attiré?
Le projet a été financé dans différents contextes, notamment le contexte de la guerre en RDC et aussi le contexte des différents programmes financés au niveau de la RDC et qui, au niveau de la mise en œuvre, Il y a eu certains cas d'abus, exploitation sexuelle signalés au sein des différentes communautés de ces programmes. C'est ainsi que ce projet a été financé pour venir contribuer au renforcement du système holistique et intégrer les interventions multisectorielles de prévention et réponse pour les cas EAS.
Quelle sera la stratégie de mise en œuvre de ces projets?
Pour ces projets, on vise quand même à renforcer les connaissances des staffs du système de santé dans les zones d'intervention. Nous allons aussi mobiliser les communautés à travers les différentes actions de prévention et de changement de comportement. Nous allons aussi faire l'engagement du mécanisme de coordination des cas d'abus et exploitation sexuelle, ainsi que la protection et la santé au niveau de toutes les deux provinces, notamment Sud-Kivu et Maniema. Nous allons aussi faire des partenariats stratégiques avec les organisations à base communautaire qui sont présentes dans différentes zones de santé.
Et quels sont les résultats attendus du projet de prévention et réponse à l'exploitation, les abus sexuels et harcèlement sexuel?
Nous voulons que les données et les informations stratégiques de qualité sur les risques EAS et la cartographie des services de prise en charge soient disponibles au sein de la communauté. Nous voulons aussi que les communautés sanitaires concernés par les programmes multisectoriels de la santé nutrition, les programmes de développement du système de santé en RDC et COVID-19 soient informés sur les violences basées sur le genre, les exploitations et abus sexuels, harcèlement sexuel, y compris les services de prise en charge de ces cas cités ci-haut. Nous voulons que les capacités des organisations partenaires ainsi que toutes les parties prenantes, y compris les parties étatiques, soient impliquées dans la mise en œuvre du projet et nous voulons que les victimes d'EAS, abus et exploitation sexuelle, harcèlement sexuel, soient identifiés et bénéficient d'une prise en charge holistique et la réintégration socio-économique, ainsi que développer les mécanismes de gestion des plaintes au niveau de chaque communauté ou au niveau de toutes les zones d'intervention que le projet va être implémenté.
Et quelle peut être votre recommandation à la population et aux parties prenantes à ces projets?
Alors, l'appel à ces différentes parties prenantes, c'est de les demander d'accompagner le projet, d'appuyer le projet et qu'on se rassure que les survivants des cas EAS et des violences basées sur le genre accèdent aux services sanitaires et que la communauté aussi puisse s'approprier les mécanismes de gestion des plaintes visant à signaler les cas d'abus et exploitation sexuelle au niveau des communautés. Nous les invitons à la tolérance zéro et nous y arriverons, c'est quand les cas d'abus et exploitation sexuelle sont signalés et que les enquêtes soient faites pour que les auteurs soient punis conformément à la loi sur les violences sexuelles et abus exploitation sexuelle dans les pays en RDC.
Monsieur Étienne Kalimbiro, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame la journaliste.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.